Et comme chaque mardi, on retrouve le rendez-vous du libraire. Aujourd'hui, Philippe Bernadou et Jacques Griffaut, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Merci d'être là pour vos coups de cœur, vos idées de lecture. Philippe, on commence par votre coup de cœur, Temps glaciaire chez Flammarion.
Eh bien oui, voilà le nouveau Fred Vargas, tellement attendu par ses fans, attendu depuis le lendemain de l'apparition du précédent d'ailleurs, il y a 4 ans. Et je prends le pari qu'ils ne seront pas déçus. Parce que, soyons honnêtes, on ne lit pas Fred Vargas, on ne le lit pas pour l'intrigue, on le lit avant tout pour retrouver son écriture et son monde. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'intrigue. Il y en a une, et compliquée à souhait. Je fais vite. Une personne assassinée avec un petit dessin gravé sur le mur. C'est curieux. 3 personnes tuées avec le même dessin, cela s'appelle un tueur en série, en français. Surtout que ce dessin peut ressembler à une rune, une lettre de l'alphabet scandinave. Et que ces 3 personnes ont participé au même voyage en Islande. À moins que ce signe ne représente stylisé une guillotine. Et on apprend que ces 3 personnes appartenaient à l'association d'études des écrits de Maximilien Robespierre, où l'on rejoue en costume les débats de l'Assemblée révolutionnaire auxquels avait participé l'incorruptible. À vous de choisir votre piste préférée. Les temps glaciaires du titre, est-ce le cercle polaire ou la terreur? Mais je l'ai dit, le plaisir principal, du moins celui que moi j'y prends à la lecture de Fred Vargas, c'est de retrouver la galerie de ses personnages. Tout le commissariat, bien sûr, en premier lieu, le commissaire Adamsberg, qui malgré son nom traîne sa nostalgie des Pyrénées natales des rues de Paris, qui fonctionne plus à l'impression qu'au raisonnement logique. Danglars, son second, qui essaye d'oublier que sa mémoire n'oublie rien en se finissant au vin blanc. Vous retrouverez Rétancourt, au doux prénom de Violette, qui soulève 76 kilos de fonte à l'arraché. La mascotte du régiment aussi, un chat qui fait furieusement passer à Garfield. Et puis, bien sûr, vous découvrirez une foule de personnages nouveaux, dont le moins étonnant n'est pas Céleste, une vieille dame qui vit dans une cabane, seule, dans les bois, avec un sanglier domestique. Tout cela, bien sûr, est décrit avec beaucoup de sympathie pour cette armée de paumés, de tendresse même, on peut dire. Et avec beaucoup d'humour aussi. Et il en faut pour faire passer les kilos d'érudition qui émaillent ces pages, et dont le fameux Danglars se fait le rapporteur le plus souvent. Une lectrice me disait qu'elle avalait Fred Vargas au grand galop. Moi, je le trouve un peu dommage. Personnellement, j'ai dégusté ces 490 pages à petite dose et m'en suis bien trouvé. Mon opinion, c'est qu'on ne lit pas un roman, fût-ce un polar, pour l'oublier aussitôt. Pour l'oublier, c'est mieux le vin blanc. Fred Vargas, Temps glaciaire, est publié chez Flammarion.
Merci Philippe. Jacques Griffaut, quel est votre coup de cœur cette semaine?
Eh bien, c'est un livre de John Harvey qui s'appelle Ligne de fuite et qui est publié dans l'excellente maison d'édition Rivage. John Harvey, c'est un passionné de jazz, de peinture, il est éditeur et poète. Il est connu essentiellement pour la série de l'inspecteur Charlie Resnick. Le premier livre de cette série, Cœur solitaire, a été distingué par le Times comme l'un des 100 meilleurs romans policiers du XXe siècle. Mais ici, ce n'est pas Charlie Resnick, on va rencontrer 2 enquêteurs. La première, c'est Karen Shields, qui est une inspectrice d'origine jamaïcaine au caractère bien trempé. Voilà comment commence le livre. Le visage sous la glace, levé vers elle des yeux morts, grands ouverts, la fixité du regard flouté, comme à travers du verre de bouteille. Un peu plus loin barbotait une petite troupe de canards indifférents. La peau devait adhérer par endroits, songea Karen Shields. Le front, l'arête du nez, le menton. Une substance noirâtre s'était répandue à côté du crâne avant de geler. Du sang, vraisemblablement. Ce qu'on trouve là, c'est le cadavre d'un jeune Moldave qui est découvert donc sous la surface d'un étang gelé dans le parc de Hampstead Heath, qui est un des parcs les plus prisés à Londres. Elle a été prévenue, et c'est toujours sur la même page, quelques moments plus tôt, et voilà pour vous donner une idée du style aussi, comment ça se passe. L'appel l'avait réveillée, avait donc réveillé Karen Shields. Dans un demi-sommeil, elle avait laissé échapper son portable qui était tombé sur le lit. « Mais !» avait-elle entendu, alors que son coude s'enfonçait dans quelque chose de mou à côté d'elle. « Hé, calmos !» Elle avait presque oublié qu'il était là. Elle avait dit quelques mots au téléphone, puis écouté. L'homme qui dormait dans son lit s'était poussé en grommelant, révélant un tatouage entre l'omoplate et la nuque qui commençait à se confondre avec la teinte naturellement foncée de sa peau. Si c'était à refaire, le choisirait-elle encore dans un bar bondé? En aurait-elle seulement envie? « Je suis là dans 20 minutes », avait-elle promis avant de raccrocher. « 30 max !» pas question de sortir sans avoir pris une douche. « Qu'est-ce qui se passe ?» protesta l'homme. Ramassant sa chemise et son pantalon par terre, elle lui jeta à la tête. « Tu t'habilles, d'accord ?» Elle a du tempérament, cette fille. Et puis, alors je vous ai parlé d'un autre enquêteur. Cet autre enquêteur, là on est en Cornouailles, on n'est pas à Londres. On est, c'est Trevor Gordon, c'est un policier vieillissant qui est mis au placard et qui va chercher une certaine Laetitia. Il a connu Laetitia 15 ans plus tôt lorsqu'elle s'appelait Rose, se prostituait et se droguait. Laetitia, elle veut maintenant échapper au père de son fils, un Ukrainien, un gangster. L'enquête de Trevor Gordon va croiser celle de Karen Shields. Ce qui fait l'attrait du bouquin, outre une intrigue bien cadenassée, c'est la personnalité, bien sûr, des deux enquêteurs. John Harvey les met en scène dans leur complexité, leur malaise existentiel, leurs illusions enfouies, mais aussi leur volonté de ne jamais baisser les bras, d'aller jusqu'au bout. Et cela dans une société violente, de plus en plus inégalitaire, où le crime est lui aussi mondialisé. C'est une peinture grise et intimiste de la société anglaise contemporaine que j'ai trouvée tout à fait passionnante. Ligne de fuite de John Harvey.
Merci, Jacques. Vie du livre, ah oui, c'est la...
C'est notre rubrique.
C'est la rubrique mensuelle Vie du livre.
Sur les choses qu'il y a dans l'air et qu'on découvre par-ci, par-là dans les journaux, on est comme la vieille qui voulait pas mourir parce qu'elle apprenait des choses nouvelles tous les jours. Et bien cette semaine, grâce à Télérama, on a appris ce qu'était le tsundoku. Et ça concerne le livre, bien sûr, puisque c'est un mot japonais qui n'a rien à voir avec le jeu, le sudoku, hein, ce n'est pas un jeu du tout. Ça vient du japonais tsumu, empiler, et doku, lire. Je ne sais pas si doku, documento, c'est la même origine. Bon, c'est un mot qui est apparu au 19e siècle, précisément sous l'ère Meiji, et quand les bourgeois ont voulu faire montre de leur culture en achetant des livres qu'ils ne lisaient jamais. Et ce qu'il fallait voir, c'était les piles de livres. Donc on empilait des livres, un peu comme décoration, un peu partout dans la maison. C'est... quand on nous dira maintenant que nos chambres sont mal rangées, que nos bureaux, dans nos librairies, on dira non, ce n'est pas du désordre, c'est de l'art. Et ce mot réapparaît tout à fait ailleurs, sur Internet, parce qu'il désigne maintenant la façon de faire des marque-pages, c'est-à-dire de se faire un catalogue de sites qu'on ne consulte jamais. Mais au départ, c'était des piles de livres. Voilà, le tsundoku, grâce à Télérama, on sait maintenant ce que c'est.
L'actualité des livres, juste avant, je vais rappeler que cette émission est en podcast sur cfmradio.fr. Si vous l'avez raté en direct le mardi soir, peu de temps après 18h. Et puis, évidemment aussi, que les références des ouvrages se retrouvent sur librairiemontauban.fr. L'actualité des libraires de Montauban.
Mais l'actualité, c'est d'abord le printemps des poètes.
Ah pardon, mais il y avait une lecture avant, pardon.
Et nous allons faire une lecture issue tirée d'un livre publié chez Bruno Doucet de Rita Metsokosho. C'est une auteure québécoise d'origine inuit. Et d'ailleurs, le livre est bilingue, français et inuit, ou plus précisément, c'est de Linu Aimun. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est une poésie donc qui est imprégnée de toute la culture chamanique. Née de la pluie. Je suis né de la pluie et de la terre. J'ai grandi dans l'insouciance de mon enfance. Tu es fait de cendres et de poussière. Où te mènera donc ton inconscience? Je suis né de larmes et de rêves. Toute ta triste vie n'est qu'illusion. Maintenant je fais une longue trêve avant de te rejoindre dans ta prison. Je suis né de sons et de musique, avec le rythme du tambour ancestral qui capture tout silence cynique et réchauffe ce froid théâtral. Je suis né plein d'étoiles dans mon ciel. Elles illuminent ma vie qui parfois se fait sombre. Elles donnent à ma vie un goût de miel. Plus jamais je ne serai qu'une ombre. Rita Metsokosho, ça s'appelle Né de la pluie et de la terre, aux éditions Bruno Doucet.
L'actualité dans les librairies à Montauban.
Toujours le printemps des poètes, aujourd'hui à 19h, à la Petite Comédie, donc c'est l'association Confluence, reçoit Germinal, le poète et chanteur Germinal, et nous serons à ses côtés. Demain, 18 mars, à 17h30, la Compagnie des écrivains qui fait ses lectures, tantôt à la Femme Renard, tantôt chez Deloche, ça sera chez nous demain, et on parlera de Barbé d'Orvilly. Le jeudi 19 mars à 17h, toujours chez nous, une soirée Insurrection Poétique. Et on enchaîne à 18h à la Femme Renard qui reçoit Jean-Paul Nunzi, ancien maire de Moissac.
Merci et à la semaine prochaine.
Merci, au revoir.